Introduction. La société et l'individu entretiennent des rapports complexes. Il existe un rapport de préséance entre les deux, qui, de l'individu ou de la société, existe avant l'autre. L'autre rapport qu'ils entretiennent serait-il conflictuel ou apaisé? On sait que toute société est régie par des normes. L'homme, de son côté, est un être de désir et de liberté. C'est pourquoi il n'accepte pas passivement les normes, qu'il défie souvent. Or, c'est à partir de ces normes que les individus sont jugés. Ils sont dits normaux s'ils se conforment aux normes ou anormaux s'ils ne s'y conforment pas. Et des sanctions sont prévues contre ceux qui défient les normes. Enfin, l'homme peut-il se passer de la société? Est-il un animal solitaire ou un animal politique? Est-il naturellement sociable? Est-il ce que la société fait de lui? Les réponses à ces questions feront mieux ressortir les rapports entre l'individu et la société. Grand un individu, personne et société, un rapport d'antériorité entre la société et l'individu. L'individu est un spécimen, une unité appartenant à une famille ou à une espèce. De ce fait, on peut parler d'individu dans le règne animal et le règne végétal. Mais on utilise le plus souvent le terme « individu » pour désigner la personne. La société, quant à elle, est un ensemble d'individus. Là encore, le terme « société » n'est pas exclusivement réservé à l'espèce humaine puisqu'on parle de société animale ou végétale, puisqu'une société est constituée d'individus, ou plus exactement de personnes, on pourrait se demander qui préexiste à l'autre. Dans l'établissement du rapport d'antériorité entre l'individu et la société, Aristote part de l'analyse du tout et de la partie. Il dit que le tout existe avant la partie, c'est-à-dire que la société, le tout, existe avant l'individu, la partie. Ainsi, dans un rapport de préséance, concevoir l'individu avant la société ou sans la société est absurde aux yeux d'Aristote. Pour lui, la société est naturelle et l'homme ne peut vivre que dans la société. Il affirme qu'il y a une sociabilité innée en l'homme, pour dire que les hommes sont, par nature, des êtres sociaux. L'homme qui vit en dehors de la société est soit un dieu, soit une bête brute, pense Aristote. Marx pense la même chose et considère que l'individu réel ne préexiste jamais à la société. Pour lui, c'est la société qui existe avant l'individu. Jean-Jacques Rousseau et Thomas Hobbes ne partagent pas la conception d'Aristote et de Marx. Dans leur hypothèse de l'état de nature, ils estiment que l'homme est homme sans la société et qu'il existe avant la société. Dans son discours sur l'origine de l'inégalité parmi les hommes, Rousseau avance que l'homme vivait solitaire, heureux et libre. Il n'avait pas besoin de ses semblables car la nature pourvoyait à tous ses besoins. Mais des circonstances telles que les catastrophes naturelles et la menace des bêtes fauves amenèrent les hommes à se regrouper et à vivre en société. Rousseau en déduit que la société n'est pas une nécessité, mais un accident. 2. L'homme est-il ce que la société fait de lui? Si l'homme ne peut pas vivre en dehors du groupe, cela voudrait-il signifier qu'il n'est rien sans la société? En tout cas, il semble que c'est dans la société que l'homme se socialise et se réalise par l'éducation. Selon Aristote, Auguste Comte et Karl Marx, l'homme est ce que la société fait de lui. Mais Jean-Paul Sartre réfute cette conception. Aristote est parti de l'affirmation selon laquelle l'homme est un « zoon politikon », c'est-à-dire un animal politique, social. Dire qu'il est un animal fait pour vivre en société, c'est admettre que la société est la condition de son achèvement et de son épanouissement. L'homme vient au monde inachevé, incomplet, et c'est dans la société qu'il s'humanise, s'achève et se réalise par le biais des instances de socialisation comme la famille, l'école, les groupes, l'armée, la prison, etc. L'homme est donc un produit de la société, et il est ce que la société fait de lui. Pour Auguste Comte, ce qui fait l'homme, ce n'est pas lui-même, mais le langage, la pensée, le savoir et le savoir-faire, toute chose qu'il acquiert non de lui-même, mais de la société, de ses contemporains et de ses prédécesseurs. Sans la société, l'individu ne serait pas un être humain. Marx aussi soutient que l'homme est le produit de la société, car pour lui, les conditions matérielles déterminent la pensée. Ce que Victor Hugo traduit en d'autres termes lorsqu'il dit qu'on pense différemment selon qu'on vit dans un château ou dans une chaumière. Pour Sartre, c'est faux de dire que l'homme est le produit de la société. Il s'attaque au marxisme qui considère que la société façonne l'homme. Pour Sartre, l'homme est ce qu'il se fait, et il fait l'histoire. En affirmant que l'essentiel n'est pas ce qu'on a fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui, Sartre veut dire que l'homme n'est pas ce que la société fait de lui, mais il se fait lui-même. Au-delà de cette différence de conception, il faut néanmoins reconnaître que l'homme acquiert son humanité dans la société. Hors de la société, il n'est qu'un animal. En effet, on ne peut certes nier que l'homme possède des facultés innées qui permettent de le définir comme un être pensant, homo sapiens, un être parlant, homo loquens, et un fabricateur d'outils et de techniques, homo faber. Mais il ne réalise ses facultés, ses aptitudes naturelles que dans la société, à la différence de l'animal dont tous les comportements sont inscrits à l'avance dans le programme génétique et sont, de ce fait, héréditaires. La preuve que l'homme ne peut vivre que dans la société, c'est Lucien Malson qui nous la donne dans son ouvrage « Les enfants sauvages ». Ces enfants agissent comme des animaux, parce qu'élevés par des loups. C'est pour dire qu'avant la rencontre d'autrui ou du groupe, ou encore avant l'éducation, l'homme n'est rien, sinon un animal. Par exemple, un chat domestique lâché dans la nature retrouvera instinctivement les comportements naturels propres à son espèce, comme ses instincts de chasse ou de reproduction, instincts qu'il n'a d'ailleurs pas totalement perdu dans sa domestication. L'être humain, au contraire, lorsqu'il est privé, dès ses premières années, de son environnement culturel, survivra difficilement. Même s'il survit, il restera en deçà de l'animalité, et ce définitivement si la société le récupère trop tard. Grand 2 rapport conflictuel entre la société et l'individu. La vie en communauté rend difficile les rapports entre hommes. C'est pourquoi Kant parle d'une « insociable sociabilité », c'est-à-dire que les hommes ont une disposition naturelle à vivre en société, mais l'envie, la jalousie et les passions qu'ils éprouvent pour leurs semblables éveillent en permanence des conflits, ce qui rend leur cohabitation difficile. Au-delà du conflit entre individus, il y a un autre conflit qui oppose l'individu à la société. En effet, ce rapport conflictuel a toujours existé, car l'individu socialisé n'accepte pas passivement les valeurs, règles et normes que la société lui impose. Ces normes sont contraignantes, ce qui amène Schopenhauer à affirmer que « toute société a pour compagnie inséparable la contrainte ». Ce qui voudrait dire que, par respect pour les normes, l'homme devrait pouvoir lutter contre ses propres désirs. Mais Freud soutient qu'on ne doit pas négliger ce qu'il y a d'animal dans notre nature. Il dit « Notre idéal de civilisation n'exige pas qu'on renonce à la satisfaction de l'individu. Pour lui, en refoulant souvent nos désirs sexuels, on peut provoquer des troubles ou des déséquilibres en nous. Mais il faut reconnaître qu'à cause des normes, il est impossible de faire tout ce qu'on veut. D'ailleurs, ces normes prévoient des sanctions contre toute personne qui les défie. » Malgré ce caractère contraignant des normes, l'homme se sent toujours bien dans sa société, et c'est paradoxal. Voilà pourquoi, dans la définition qu'il donne à la société, Alain met en évidence le caractère paradoxal du lien social. Le lien social, c'est ce qui unit les hommes et leur permet de vivre ensemble. Le paradoxe de la vie en société, dit Alain, c'est que l'homme aime la société où il vit en même temps qu'il en subit les règles. Le lien social est tel que dans certains cas, l'individu est prêt à donner sa vie pour défendre la société lorsqu'elle est menacée, d'où l'idée du patriotisme. En somme, lorsque la société se met en place, il y a un conflit qui s'installe entre l'individu et la société. Ainsi, tant qu'il y aura des normes, des hommes les violeront et la société sévira par le biais des sanctions. Mais il faut reconnaître que la transgression des normes est bénéfique pour l'évolution de la société, car c'est à force de transgresser les normes que ces dernières sont améliorées.